Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, pour commenter cette actualité, je ne suis pas seul, bien évidemment. Je suis en compagnie de Florence Ginisti. Je m'applique à bien à prononcer son nom. Florence Ginisti, qui est avocate, qui est engagée dans la vie citoyenne et politique et qui, s'occupe de beaucoup de choses au travers de différentes associations. Jean-François Mignard, qu'on ne présente plus, ça fait des années que nous faisons cette émission ensemble. Jean-François Mignard de la Ligue des droits de l'homme, c'est un de ses titres de gloire, il y en a d'autres. Et puis Jean-Luc Palévaudy, qui est le patron de l'antenne d'Esprit Occitanie, aussi son vice-président. Voilà l'équipe. Et nous saluons Pierre Larouille, s'il nous écoute, qui doit être à Paris.
Il nous manque.
Il nous manque, mais je crois qu'il est dans quelques sphères du pouvoir.
Ah, il est incorrigible. Il est incorrigible.
Oui. En cette première émission de rentrée, nous allons vous proposer un tour d'horizon de l'actualité, tant nationale qu'internationale. Alors, les sujets ne manquent pas. Disons-le, ils sont loin, vous allez le constater, d'être tous réjouissants, mais au moins, ils sont, eux, en abondance. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti. C'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Alors, on commence traditionnellement, hein, les habitudes ne se perdent pas malgré les vacances, par une citation. Ouvrez les guillemets. La politique commence par la contemplation de la réalité, surtout quand celle-ci ne nous plaît pas. Fermez les guillemets. J'interroge, non, personne.
Non, je pourrais citer des noms par malveillance, mais je m'abstiendrai, j'attendrai quelques minutes.
Voilà, bien écoutez, c'est d'abord une phrase très actuelle, d'une part, et ensuite, c'est un de nos amis d'outre-Rhin qui n'est autre que le chancelier allemand Olaf Scholz.
D'accord.
Allez, tiens, deux chiffres pour vous mettre en forme. Alors, 85 milliards d'euros, c'est le montant du déficit de la balance commerciale française, c'est un record, là, on franchit une étape. Et puis,
quoi qu'il en coûte.
Et puis le bouclier énergétique qui lui est évalué, on n'a pas encore les chiffres définitifs et exacts, à 24 milliards d'euros. Comme quoi, avec les milliards qui ont coulé à flot durant le Covid, il y a quand même bien eu, n'en déplaise à certains mauvais esprits, une certaine abondance.
Tout à fait. Hein, abondance. Mais peut-être pas pour tout le monde à égalité.
Voilà, c'est le grand problème, c'est l'égalité. Il y en a, mais tout est dans la répartition. Allez, premier sujet, la France. Donc après des vacances agitées et certainement limitées pour beaucoup, les affaires reprennent. La session parlementaire s'est achevée dans une relative cacophonie, mais le gouvernement a réussi à faire voter les textes qu'il avait soumis au Parlement, notamment avec l'appui des Républicains, qui sont eux en pleine recherche de leur identité et peut-être même et surtout de leur avenir. Les troupes mélenchonistes n'ont brillé que par leur agitation aussi puérile que stérile, pendant que celles du RN adoptaient un profil relativement bas, voire sage, pour passer pour des élus cohérents et responsables, pas sûr que le but soit atteint. Que faire à présent de cette assemblée morcelée? Comment le président, mal habitué par une précédente représentation nationale à sa botte même, voire godillot, comme l'on disait en d'autres temps, comment ce président va-t-il pouvoir gouverner efficacement? Aura-t-il l'humilité de composer? Poser la question, c'est presque y répondre, puisqu'on peut en douter. Donc je vous propose de balayer tous ensemble ces quelques thèmes qui vont nous occuper tout au long des mois qui arrivent et sur lesquels nous reviendrons certainement plus largement. Alors on peut commencer par, c'est la rentrée, donc parlons de l'éducation nationale, parlons du vide des professeurs, de la déshérence. On sait que ce n'est quand même pas un phénomène qui est purement français. Si vous avez regardé d'excellentes émissions, notamment sur Arte, vous avez vu que tout le monde en Europe se pose les mêmes questions et se heurte aux mêmes problèmes. Vous avez vu aussi que ce n'est pas forcément uniquement non plus une question de rémunération, bien que nos enseignants en France soient très mal lotis de ce côté-là. Alors Jean-François, qui a un peu sévi dans ce secteur. À vous de démarrer ?
Oui, peut-être, je veux bien m'y lancer. Je pense que sur ce sujet, il y a deux écueils. C'est le premier auquel on pourrait céder si on continue à tirer le fil de le fait de dire voilà c'est quelque chose qui est pas propre à la France. Alors non seulement c'est pas propre à la France, mais c'est pas propre aux enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près dans bon nombre de secteurs, on a une comment dire, une espèce de vote par les pieds, particulièrement des jeunes, concernant le fait de s'engager dans l'entreprise ou dans le métier. Et c'est certainement intéressant et je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu, tant ce phénomène est massif. Par ailleurs, donc ça veut dire que ça concerne pas que la France, ça concerne pas que les enseignants, c'est une espèce de phénomène comme ça social qui est traduit particulièrement dans le milieu de l'enseignement. Et l'autre risque serait justement de dire voilà, on ferait l'impasse sur la particularité du secteur qui est le secteur enseignant. Or, il me semble effectivement qu'il y a une particularité concernant le secteur enseignant, c'est que c'est vrai que je dois passer aux aveux, je suis un ancien enseignant, donc
personne n'est parfait, mon cher.
Bien entendu, hein. Voilà, un fonctionnaire à la retraite qui est choisi un métier dans lequel, en gros, on a trois raisons. Et à mon époque, on rigolait beaucoup de ça, en disant pour être enseignant, c'est juillet, août, septembre. Voilà, c'était et comme ça, on est tranquille. On est peut-être au bout. De deux choses. D'une part, de cette espèce de la plaisanterie que je viens de faire en est sacrément indicatrice, du fait que les enseignants, petit à petit, ont dilué leur spécificité dans les corps des métiers, dans la représentation qu'on pouvait avoir en France. Je ne suis pas du tout nostalgique de l'enseignant qui était beaucoup respecté, et qui était... Mais il y a aujourd'hui les enseignants... certainement ont une place qui est une place à refonder ou à repenser dans le cadre qui est le cadre des représentations sociales et des pratiques sociales. Et d'autre part, c'est vrai que concrètement, aujourd'hui, être enseignant, c'est très mal payé et c'est parfaitement dévalorisé. Et la manière dont les choses... Alors, c'est dans le déni. Cette question est une question, moi, en tant qu'enseignant, je l'ai vu relativement arriver de manière... Il y a des alertes qui ont été faites concernant cette réalité-là, qui ont produit des impasses au-delà du discours de la part des gouvernements successifs, là, parce que, pour le coup... même si le dernier ministre de l'Éducation nationale s'est parfaitement distingué dans la maltraitance, que ce soit des élèves que des enseignants, personnellement, je pense, c'est une tendance qui est une tendance lourde. Et il y a longtemps, effectivement, que cette alarme a été tirée. Je vais peut-être livrer une anecdote personnelle. En tant qu'ancien enseignant, souvent on me posait la question ou on me demandait éventuellement de discuter avec des jeunes qui voulaient se destiner à ce genre de métier. Et au fil des ans, j'ai été de moins en moins positif dans les conseils que je pouvais donner à ces gens-là, pour le dire trivialement. Aujourd'hui, quand un jeune vient me voir et me demande si ça vaut le coup d'être enseignant, j'aurais tendance à lui dire que non. Et pourtant, je pense être quelqu'un qui a beaucoup aimé ce métier-là et a une idée très positive de ce que ça pourrait être. Mais à l'état aujourd'hui, je pense effectivement que ce n'est pas un conseil à donner à un jeune.
Ça veut dire, Jean-François, qu'entre le moment où vous avez commencé et maintenant, bon, il s'est écoulé un certain temps. Hein,
oui.
Pas un temps certain, mais un certain temps. Est-ce que ça veut dire que les conditions de vie, la société, le rapport avec les élèves, voire les parents, a énormément changé ?
Oui, je pense. Alors, Il est évident que je ne ferai pas le coup de « c'était mieux avant », parce que ce qui était mieux avant, c'est qu'en règle générale, on était plus jeunes. Et ça, ça rend les choses vachement mieux, pour le dire comme ça. Hein. Mais je pense que entre l'époque où j'ai suivi la voie royale de l'enseignant, de celui classique, hein, l'école normale, voilà, on est là, on rentre dans un métier, on n'est pas dans une profession déjà, on rentre dans un métier avec une culture, une reconnaissance sociale ou des choses comme ça, des rapports par exemple avec les parents ou des choses comme ça, et aujourd'hui ça n'a effectivement plus grand chose à voir, tant ça a été dévalorisé. Et encore une fois, je ne suis pas nostalgique. Hein. On ne reviendra jamais, on ne repassera pas les plats de l'histoire. Il s'agit de refonder ou de réfléchir. Et c'est ça qui est critique, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu réfléchi. Ou du moins, quand ça a été réfléchi, ça n'a jamais été pris en compte. Mais ça n'a effectivement plus rien à voir. Tant aujourd'hui, les enseignants, alors ça c'est Blanquer, hein, seraient devenus des gens qui auraient à appliquer des méthodes, qui sont des méthodes déterminées par ailleurs. Évaluer sur des registres et des indicateurs qui sont des indicateurs plus que critiquables et qu'on pourrait tellement... l'enseignement, ce serait tellement simple d'une certaine manière qu'en 4 jours, on pourrait devenir enseignant, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors bien sûr, le malheureux ministre actuel va expliquer que ces 4 jours-là, ce ne sont que le début d'une longue période de formation continue et d'accompagnement des jeunes sur le terrain. Et là, quand on a été enseignant pendant quelques années, on peut vraiment être assez sceptique sur ce que ça va donner dans les années qui viennent.
Florence Gignisti.
Oui, je rebondirai un peu sur ce que dit Jean-François. C'est vrai que l'éducation nationale, il y a ce phénomène donc de grande démission, qu'on appelait la grande démission, bon, qui atteint un certain nombre de professions, et notamment chez les jeunes. Il y a certainement un problème chez les enseignants, peut-être dans tous les pays, et encore ça reste à voir, mais il y a quand même un problème spécifiquement français. On a un système qui est extrêmement lourd, par rapport comparé à d'autres pays en Europe, où on a un ministère de l'éducation nationale qui est extrêmement pyramidal, avec un système très contraint, à la fois pour l'organisation, pour ceux qui sont les responsables des établissements, pour la carrière des enseignants. Ce sont des choses, par exemple, qui n'existent pas en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale. Est-ce que ça marche mieux ? Quand on regarde les classements PISA, on s'aperçoit qu'ils sont mieux classés que nous. Il y a d'autres pays où il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale et où les pays sont mieux classés.
Mais la décentralisation, peut-être les Länder sont quand même à la manœuvre en Allemagne.
Sont à la manœuvre, bien sûr. Mais bien sûr, il y a une éducation, mais elle est faite, elle est gérée par les Länder. Après, avec des péréquations, enfin bon... Ils savent très bien faire ça en Allemagne sur le plan financier, puisqu'en France, c'est toujours la terreur de « on veut surtout pas faire de décentralisation parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas d'égalité ». Donc tout ça, c'est des faux débats, c'est tout à fait possible. Donc il y a ce phénomène français qui fait qu'il y a cette lourdeur, etc. Et ce qui est quand même problématique, moi je ne suis pas enseignante, hein, mais il se trouve que je travaille dans une association, je parle souvent avec des enseignants et avec des proviseurs. Ce qui les épuise et qui n'épuise pas que cette profession en France, c'est la succession de réformes absolument incroyables. Je ne sais pas le nombre de réformes qu'il y a eu. Bon, je ne sais pas en 10 ans. C'est vertigineux. Une réforme, et ça c'est très français, une réforme succède à une autre réforme, en général pour faire exactement le contraire de ce qui s'est passé avant, sans aucune analyse, sans aucun bilan de ce qui a été fait, sans aucun suivi. Là, on l'a vu, moi je le vois pour les jeunes là, que je suis un peu dans mon association, qui en plus ont été victimes du Covid, etc. C'est-à-dire qu'ils ont été confrontés à une réforme du bac et une réforme des séries, tout ça en même temps, pour se rendre compte maintenant que ça ne fonctionne pas. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de maths. On a fait des efforts pendant des années pour essayer de faire en sorte, notamment pour l'égalité entre les garçons et les filles, que les filles fassent des maths. C'était le cas de la fameuse série S. Maintenant, dans la réforme Blanquer, comme les maths sont devenus optionnels, on s'est rendu compte que les filles ne prenaient pratiquement plus de maths. Donc, voyant le fiasco de ce système, on a remis des maths, mais de manière complètement aberrante. Donc, tout ça, je pense qu'il y a un épuisement, littéralement un épuisement du milieu enseignant, qui effectivement, ce que disait Jean-François, en plus, les gens sont assez peu payés, pas très bien payés pour ce qu'ils font. Ensuite, ils sont confrontés aussi, il faut le dire, hein, dans certains quartiers, c'est extrêmement difficile d'enseigner. Ça, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même être réaliste. Quand il y a eu l'attentat terrible là, dont a été victime Samuel Paty, pour des questions d'enseignement, quelque part. C'est-à-dire que ce qui est contesté, c'est la teneur des enseignements qui sont prodigués aux enfants. Vous avez un certain nombre d'enseignants qui font de l'autocensure maintenant. Parce que ça devient dangereux parfois d'enseigner certaines matières. Et il y a des enseignants qui vous disent on n'enseigne plus ou on ne parle plus de certains sujets. Donc ce sont des choses qui sont quand même nouvelles. Donc on a des gens qui sont confrontés à une hiérarchie qui souvent ne les soutient pas, des gens qui sont mal payés et qui en plus à qui on demande de faire tout, c'est-à-dire de faire l'éducation, les parents ne le faisant pas souvent. D'enseigner toutes sortes de matières, parce que maintenant, il y a l'écologie, il y a la manière de... les questions alimentaires, c'est-à-dire comment s'alimenter, etc. Donc, je veux dire, tout ça pèse sur l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait un certain nombre de jeunes profs. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps des professeurs qui venaient juste d'être nommés. Ils ont fait 6 mois, ils sont partis, ils sont allés faire autre chose. Donc, voilà, je crois qu'à un moment donné, il faudra peut-être prendre le problème dans sa globalité et cesser de multiplier des réformes qui épuisent les gens.
Jean-Luc Palévaudy.
Oui, dans cette période donc de rentrée scolaire, quand on parle de rentrée scolaire, il faut aussi bien se rappeler qu'on ne parle pas que des écoles maternelles ou primaires, on parle des collèges, on parle des lycées, on parle des universités. Et transversalement, on peut dire que les problèmes qui sont posés aujourd'hui dans la vocation enseignante traversent, et c'est une nouveauté quand même, l'ensemble de ces strates d'éducation. En son temps, on entendait moins parler de problèmes de vocation et de pouvoir faire son métier correctement au niveau du primaire, voire de la maternelle. On a commencé à en parler plutôt au niveau des collèges, voire des lycées. Mais aujourd'hui, force est de constater, c'est que le malaise s'est installé également au niveau du corps enseignant, des écoles primaires et maternelles. Et je crois que c'est quelque chose qui est notoire. Dans Florence parlait de l'épuisement, est notoire dans l'épuisement dans les conditions de travail de ces personnels. Et on ne peut pas parler du problème de l'éducation sans parler globalement du problème du travail, du problème du bien-être au travail. Et aujourd'hui, on constate que ce problème de bien-être au travail, il n'est pas spécifique à l'éducation. Il est quasiment dans toutes les strates d'activité de notre pays. Après, on trouve des corrélations sur d'autres pays, l'ensemble des pays européens, on va dire occidentaux. Je crois que là, c'est clair aussi, c'est que, et Florence l'a bien expliqué, c'est que ce qu'on traverse dans le monde enseignant, dans le monde de l'éducation, forcément, est un indicateur de l'évolution de la société. Et aujourd'hui, ce sera la fin de mon propos sur cette première intervention, un des problèmes, et je peux en parler, je ne suis pas enseignant moi-même, mais je suis de manière très proche à côtoyer des enseignants, quel que soit le niveau, le secteur, que ce soit la petite enfance ou plus largement les jeunes adultes. Eh bien, c'est la perte d'autorité. La perte d'autorité dans la capacité à professer. Et c'est pas qu'avant on avait des professeurs plus autoritaires, on avait des instituteurs plus autoritaires, mais il y avait un certain respect de la fonction de professeurs des écoles, professeurs du collège ou tout ça. Et aujourd'hui, un des malaises qui est exprimé, qui effectivement est complémentaire à l'ensemble de ce qui a été dressé comme tableau par mes précédentes interventions, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est ressenti comme tel, travailler dans de bonnes conditions parce qu'on n'est pas en capacité, on n'est pas formé, on n'a pas les moyens, c'est ce que j'entends, de pouvoir travailler correctement. Et le dernier point, c'est aussi comment... le tout à chacun, parce qu'on peut critiquer tout le monde, mais peut-être que les premières critiques, elles sont aux premiers éducateurs, c'est les parents. Et aujourd'hui, être parent, eh bien, c'est plus comme avant. Et pour le coup, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je n'ai pas de solution, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la notion est de liaison entre le corps enseignant et les parents. Avant, on connaissait des structures des parents d'élèves. Aujourd'hui, les parents d'élèves, c'est des structures très autonomes qui n'ont plus de réflexion comme pouvait y avoir dans des organisations comme la FCPE ou la PEP pour d'autres. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien de tout ça. Ce n'est pas forcément grave, mais ça connote bien qu'il y a des changements qui font qu'on ne sait plus où on habite sur ce problème de l'éducation. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution pour changer la donne. C'est ça qui peut être inquiétant. Et un des derniers indicateurs que je voudrais donner, c'est que, dans tous les cas, pour la strate où j'évolue, hein, donc dans la région très proche de Toulouse, eh bien, une affluence considérable de demandes pour mettre les gamins dans le privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas de réponse, mais je constate.
Allez, pour conclure ce sujet, dernier mot de Jean-François Mignard.
Oui, juste deux choses, je voudrais dire. C'est que je pense qu'une des difficultés pour penser le problème, le risque serait celui de la nostalgie. C'est-à-dire, c'était mieux avant. C'est fini, ça. Enfin, je veux dire, on est dans une situation qui est multiforme, protéine, avec des raisons qui sont très, très différentes. J'entends, moi, souvent... Alors, je fais partie des pédagogues bobos, vous savez, ces gens-là qui pensent que l'enseignement, c'est un boulot spécifique, que la pédagogie, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est une pratique. On ne naît pas enseignant, on le devient, on se forme à ce genre de choses-là, et que l'école, c'est quelque chose qui, de toute façon, est ouvert à l'extérieur. On a beau essayer de le fermer, l'école sanctuaire, moi, c'est quelque chose, ça m'a toujours fait un petit peu rigoler. On ne reviendra pas aux anciennes... Je dis ça parce que il y a une espèce de discours comme ça qui revient. On ne reviendra pas à l'école de la Troisième République. Je peux vous garantir, pour l'avoir vécu d'un petit peu près en tant qu'enseignant, vu des enseignants sur ce modèle-là, zéro nostalgie sur cette affaire-là. Je voulais dire ça. Deuxième chose aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un vrai boulot de fond concernant l'école. Deuxième chose. Et la dernière intervention me conforte à le dire. L'école, l'éducation nationale est un service public et que, comme bon nombre de services publics, elle est l'objet effectivement d'un démantèlement, d'une déconstruction pour des raisons qui sont des raisons idéologiques, qui font qu'on peut se poser la question, sans être ni complotiste ni parano, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas, y compris dans le moyen et le long terme, une volonté délibérée de laisser pourrir ce genre de situation pour ouvrir au marché. Nous avons des gens, et il y avait des gens qui étaient au ministère de l'Éducation nationale dans le dernier ministère, qui professaient ce genre de choses-là. Autrement dit, affaiblissons l'école, ou laissons l'école s'affaiblir. Et ça peut être fait de manière très intelligente, et ça l'a été, de manière à pouvoir effectivement ouvrir ce marché-là et à faire quelque chose qui permette effectivement de produire et de consommer.
Ouais. Allez, nous allons passer à un deuxième sujet. Alors peut-être qu'il nous occupera moins de temps, parce que peut-être le jugerez-vous, en tout cas moi je le juge comme tel anecdotique. Vous savez qu'à une époque, on disait que pour enterrer un dossier, on créait une commission, il y a eu des comités Théodile, voilà. Et puis aujourd'hui, le président Macron crée le Conseil national de la refondation, avec peu de participants finalement, puisque toutes les oppositions et certains syndicats ont refusé d'y participer. On a un peu l'impression que c'est la redite de ce conseil qu'il avait créé pour l'environnement, où on a eu des gens extrêmement motivés, travailleurs et... Convention citoyenne, j'en sais quelque chose, qui ne connaissaient rien en arrivant, qui ont énormément travaillé, qui se sont formés, tout ça pour un résultat quasiment nul, puisque on a retenu finalement très peu de leurs propositions. Alors aujourd'hui, le président y revient. C'est assez curieux, cette manie de contourner les institutions. On a des parlementaires, on a des assemblées nationales, on a des sénateurs, on a un conseil économique et social, et puis on va recréer un truc dont on ne sait pas trop à quoi il sert. Il paraît qu'il serait présidé par M. Bayrou même. Donc...
Je ne connais pas, je n'ai pas été présenté.
Voilà, oui, on ne sait pas.
Bayrou est toujours sur des coups absolument splendides.
Oui, mais il était au plan. On n'a jamais plus entendu parler du plan depuis qu'on a su qu'il en était nommé. Donc c'est assez curieux. Bon, sur cette question, Florence, on ne va pas y passer trop de temps non plus.
On ne sait pas trop s'il faut rire ou pleurer de cette initiative, parce que Bon, ça s'appelle CNR, c'est pas anodin. Donc, on a un président qui s'est pris pour Napoléon, qui se prend pour De Gaulle. Donc là, évidemment, c'est une
un
forme
peu plus petit.
De geste gaullienne, donc en essayant de ramener tous les gens qui
il,
sont...
Il est plus grand que Napoléon, mais plus petit que
voilà,
De Gaulle.
Voilà, donc bon,
en taille, je dis.
C'est, enfin, c'est terrible parce que c'est à la fois le ridicule du personnage qui, depuis le début, est dans cette logique-là, bon, de s'identifier à des personnages qui n'ont rien à voir avec lui. Qui n'ont rien à voir avec lui. Bon, voilà, alors c'est pour pallier. Alors, c'est vrai que son idée avait germé avant d'avoir le résultat des législatives qui ne lui ont pas été favorables. Mais enfin, tout ça participe, c'est comme l'histoire du grand débat, c'est-à-dire qui a fait flop quand il y a eu quand il y a eu les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a fait parler les gens, on a fait des espèces de débats, soi-disant, bon, avec quelqu'un.
Donc ça rappelle un peu le principe de la cocotte minute, là, on lève le
voilà,
petit truc,
voilà.
Là, et puis
il n'en est rien sorti.
La vapeur s'échappe.
C'est-à-dire qu'il n'en est rien sorti. On a fait écrire à des gens ce qu'on appelle les cahiers de doléances, là. D'ailleurs, c'est terrible, cette affaire, parce que ça a été. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit partout. Ça n'a pas été du tout numérisé comme ça le devait l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas y avoir accès. Les chercheurs qui veulent travailler dessus n'y ont même pas accès. Donc tout ça est parti, c'est évaporé. Il n'est resté finalement que quelqu'un qui faisait des discours pendant 5 heures devant des maires béats qui acceptaient, qui ne disaient plus rien et qui étaient en admiration et qui l'applaudissaient. Donc là, on va recommencer. Sauf que là, quand même, il y a un certain nombre de politiques qui ont l'air de ne pas vouloir marcher dans la combine, puisque visiblement, ce machin, comme certains l'ont qualifié, va être assez réduit. Donc, ça sera encore une fois la même chose. Alors, j'ai vu qu'il y avait une plateforme où les citoyens pouvaient parler. Enfin, bon, c'est une chose assez ridicule, mais qui est quand même, moi, je trouve, en ce sens-là, c'est ridicule, mais c'est grave par rapport au fonctionnement de la démocratie française, dont on sait qu'elle ne marche pas bien. Et on n'a aucune réponse, finalement, par rapport à ces difficultés de fonctionnement de la démocratie française. Les réponses sont des espèces de hochets qu'on agite sous le nez des citoyens. Donc, je pense que beaucoup ne sont pas dupes, il y en a qui le sont. Mais c'est assez triste parce que c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des réponses après les Gilets jaunes. Et là-dessus, je rebondirai, puisque je crois qu'on va en parler tout à l'heure sur la constitution chilienne. Bon. On n'est pas dans le même état d'esprit, mais il y avait eu bon, des manifestations importantes par rapport à une situation difficile. À un moment donné, il y a un pouvoir qui s'empare quand même de quelque chose et qui essaie de faire une démarche démocratique. Donc, on n'était pas dans la même configuration, mais on aurait pu, je pense. Donc là, on fait des simagrées, on fait de la com, et ça reste assez pathétique et triste pour notre pays.
Voilà. Jean-Luc Palais, vous dit.
Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'un outil supplémentaire en plus de la représentation, je dirais, nationale connue et tous ces outils qui sont des outils républicains, cet nouvel outil n'a pas sa place aujourd'hui dans, je dirais, ce que traditionnellement on est amené à appeler la démocratie représentative. Pour autant, au-delà, je dirais, de ce qui sera certainement un flop, il faut aussi dépasser ce problème-là. On est aussi, et on en parlait tout à l'heure, mais là, dans ce domaine-là, à la recherche de quelque chose. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe et quels sont les ressentis citoyens par rapport à ce mal-être, là, un de plus, je dirais, qui est très très franco-français. Pour une émission qui s'appelle Ça va mieux, je ne vois pas tellement beaucoup de choses ce soir, enfin cet après-midi.
C'est vieux, là, cette émission.
Des signaux qui vont indiquer que ça va mieux. Eh bien, c'est bien le problème franco-français. C'est que finalement, bien, tout le monde se cherche. Mais quand je dis tout le monde se cherche, sur le plan politique, y compris tous les partis politiques. Et la question de ce Conseil national de la refondation. Moi, j'y mettrais en face l'appel de Mélenchon pour aller manifester et mettre la rue, tout le monde dans la rue. Mais pourquoi faire? Parce que finalement, la liste à la Prévert, sûrement, dans laquelle on sera appelé à aller dans la rue, fera un flop aussi. Parce que on se cherche. Tout le monde se cherche, les citoyens se cherchent. Entre défiance en direction des politiques, entre les partis politiques, et là pour le coup, que ce soit à gauche comme à droite, eux aussi sont en recherche d'un second souffle. la fin de la Macronie annoncée dans 5 ans, même moins maintenant, toutes ces questions font qu'on est dans quelque chose, une mouvance politique et politicienne dont on ne sait pas ce qu'elle peut donner. Parce que la vraie question, finalement, c'est quelle conduite du pouvoir dans notre pays et quelle conduite avec un fonctionnement, avec des instances républicaines et démocratiques qui, d'après ce qu'on entend, ne fonctionnent pas, mais pour autant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que quelque chose puisse fonctionner ? Alors, peut-être que ça sera le sujet de tout à l'heure, mais je reviens, par exemple, à gauche, est-ce que l'avenir, c'est un mouvement comme la NUPES ? Quelle refondation y aura-t-il à droite après que Macron ait quitté le pouvoir ? Les montées du populisme. Et donc, la girouette et notamment la boussole, elle se situera où ? C'est bien toute la question. Et je crois que, au-delà de cet artifice qui nous est proposé aujourd'hui sur CNR, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays, aujourd'hui, se sente porté par quelque chose de mobilisateur.
Un mot, Jean-François Mignard, oui, ou deux, s'il le faut, mais bon.
Oui, je vais être rapide, parce que je partage une partie de ce qui a pu être dit. Je rebondis sur le propos de Jean-Luc, sur une émission qui s'appelle « Ça va mieux ». J'ai l'honneur et l'avantage d'être un des anciens avec Jacques de cette émission. C'est vrai qu'au fil, c'est un peu désespérant, certes. Il faut vraiment certainement pas réécouter ce qu'on a pu et raconter. À la fois peut-être parce qu'on n'a pas tout le temps été brillant, mais aussi parce que on n'arrête pas de faire un constat qui est un constat du délitement progressif des formes de démocratie et de médiation sociale. Alors, au-delà de la démocratie, même de médiation sociale, au sens de capacité à vivre le conflit entre nous sans que ça débouche dans la violence, c'est-à-dire de le structurer en termes politiques. On en est au degré zéro. Alors bon, la pantalonnade médiatico-politique du CNR. Alors, en plus, reprendre le terme CNR de la part d'un personnage comme le président de la République et de ses pratiques et des gens qui l'entourent, on pourrait dire, si c'était pas pitoyable, on pourrait penser que c'est odieux, mais vraiment, ça ne mérite même pas notre indignation. Ça ne mérite que notre mépris. Voilà.
Soyons économes dans notre mépris. Soyons économes, que les nécessiteux sont nombreux.
La Rochefoucauld, mais on est que ce soit les formules aujourd'hui sont usées, réusées sur les appels. Il y a encore un appel qui vient d'être sorti, un appel à quoi ? À faire du neuf avec du vieux. Alors, on est effectivement dans un contexte extrêmement dangereux. Alors bon, voilà, l'extrême droite en embuscade. Ça faut quand même pas le. On est dans un contexte international avec une crise économique majeure, avec une guerre, comme il y avait très longtemps qu'on n'avait pas imaginé qu'il puisse y en avoir, tellement nous pensions être bien protégés dans notre Europe soft et tout. Les petits copains d'Afrique et d'Asie, eux, ils savaient ce que c'était la guerre, pendant que nous, on pensait qu'on était dans une paix mondiale. Voilà. Le CNR, il va y avoir quelques associations. Je ne sais pas encore comment ces associations-là sont. Imagine, voilà, l'association de la Bibière. Alors, je peux imaginer, moi, ayant été responsable associatif à un niveau pas trop bas, je peux imaginer ce que ça peut représenter pour une association comme tentative d'arriver à trouver un interlocuteur du côté de l'État. Pour autant, on voit bien que c'est grippé à peu près à tous les étages. C'est-à-dire que la communication politique, de ce point de vue-là, elle est cuite parce que les outils sont complètement usés. Voilà. Comment en sortir ? Excellente question, Jean-Luc. On essaye d'y réfléchir depuis plusieurs années là-dessus. Il y a effectivement, on a l'impression qu'il faut refonder les choses effectivement de A jusqu'à Z, mais ça passera pas par une espèce de gadget macronien, quoi. Voilà.
Allez, autre sujet, les super profits qui ont agité, vous savez que pendant tant le Covid que la guerre, un certain nombre d'entreprises qui se trouvaient dans des secteurs clés ont vu leurs profits gonfler de façon très très importante, dont la question se pose de savoir si on doit les taxer. Certains pays ont répondu oui. Je pense que c'est le cas de l'Allemagne, je crois que c'est le cas de l'Italie, de l'Espagne. Alors bien sûr, nous n'échappons pas à la question. M. Macron a dit non au départ, puis maintenant il serait pour. M. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, traîne des pieds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Cette taxation de ces 10 super profits qui reste à définir quand même, parce que c'est de la fiscalité et c'est un peu rigoureux. Hein, il va falloir définir l'assiette, et l'assiette, c'est toujours assez compliqué. Alors, sur cette question, Jean-Luc, un mot?
En fait, je pense que c'est le bon sujet où on pourrait trouver dans ce pays un consensus. Globalement, je ne vois pas, à part une frange, je dirais, idéologiquement formatée, qui soit contre. Mais globalement, on ne peut pas, dans la situation économique actuelle, et les chiffres ont été rappelés dans l'introduction de Jacques Lavergne.
Brillante introduction.
Oui, mon introduction est toujours brillante.
On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a un problème économique, il y a des déficits monstrueux qui obère y compris des futures générations, et accepter d'entendre et de lire tous les mois, ou une fois par an au moins, l'annonce de chiffres extraordinairement faramineux de ces fameux super profits. Le problème, c'est comment on les fiscalise et qu'est-ce qui est véritablement possible de faire à un niveau national. Parce que les entreprises qui dégagent ces fameux super profits, ce ne sont pas que des entreprises franco-françaises. C'est des entreprises qui, peut-être, peuvent avoir leur siège en France, mais qui, finalement...
Si elles ont déjà leur siège en France, c'est joli.
Oui, hein. La nationalité des entreprises, il y aurait de quoi faire une thèse.
Oui, mais plusieurs. Donc, y compris la capacité qu'on aurait, et la possibilité qu'on aurait de pouvoir taxer un certain nombre, de niveaux de ces profits, ça ne doit pas être très simple à mettre en place.
Non, techniquement,
mais,
c'est extrêmement
je crois
compliqué.
Que c'est un bon sujet, parce que effectivement, si on arrivait à que ce soit le pouvoir en place ou le futur pouvoir, pourquoi pas de gauche, je rappellerai que le président Hollande, quand même, avait fait en la matière, notamment au niveau bancaire, fait voter des lois, et une loi, y compris au niveau européen, qui pouvait permettre de donner un outil de pouvoir mieux contrôler ces problèmes de fiscalité. Mais au-delà de ça, là aujourd'hui, peut-être que la prochaine émission, ça va mieux, et bien pour le coup, on aurait un bon sujet où on pourrait dire, effectivement, il y a eu quand même consensus pour pouvoir faire en sorte que ce qui est ressenti, moi je crois que c'est plus un problème de ressenti qu'après de niveau que ça pourra rapporter, mais au moins de pouvoir considérer qu'il n'y a pas des super profiteurs et des gens qui galèrent au quotidien.
Jean-François, sur cette question,
oui,
qu'est-ce qu'on taxe?
Ah ben, taxer, ça paraît évident, mais ça veut, fait, sur le principe, ça, d'une part, ça fait... Ça
est-ce pose... que c'est pas plus un problème moral qu'un problème financier?
Non, c'est un problème
de justice.
C'est un problème politique. Hein, c'est un problème de philosophie politique au-delà du moral, et puis qui intègre, de mon point de vue, de la morale. Mais il ne faut pas demander aux financiers de faire la morale. Il suffit de leur demander de faire la technique. Mais je suis quasiment ému de l'intervention de Jean-Luc concernant cette histoire-là. C'est ça, le capitalisme. C'est ça, le capitalisme. Le capitalisme, c'est de faire des profits. Et imaginez que des gens vont lâcher le profit qu'ils font parce qu'il y aurait l'intérêt général qui le transcende. C'est contradictoire avec ce genre de choses. C'est comme ça. On peut pas. Je vois difficilement aujourd'hui les gens qui se font des sous avec et des super profits, qui d'ailleurs se ventilent entre des gens qui en font beaucoup beaucoup de super profits, des gens qui font des petits profits entre les petits porteurs, entre les intervenants institutionnels ou des choses comme ça. On a sous le nez quelque chose qui est quelque chose de l'ordre d'un choix idéologique qui a été fait. Et sur lequel, tant qu'on ne revient pas sur un minimum, il ne faut pas imaginer que effectivement les gens vont. Alors, dans quel cadre en plus ? Dans le cadre de l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas, moi, il faut regarder ce que les débats, la tenue des débats qu'il y a eu ces dernières années. Peut-être dans le cadre du CNR, les choses comme ça vont arriver et tout et tout. Bien sûr qu'il faut taxer les super-profits, que ça va être très compliqué et que c'est un pis-aller par rapport à une question quand même, qui est une question qui n'est pas posée là pour le coup, qui est de dire, c'est pas tant de les taxer après, de le savoir. Comment a-t-il été possible qu'il se dégage ? Ça, c'est une question. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on constate qu'alors qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir, il y en a d'autres qui ont fait des rôles là-dessus, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de se serrer la ceinture parce qu'ils n'ont rien dans l'assiette. Parce que l'assiette, c'est compliqué au niveau de l'impôt, mais c'est compliqué au niveau du quotidien quand elle est vide. Hein, alors que des gens et qu'ils vont continuer à se serrer la ceinture. Et je pense que notre président de la République doit commencer à avoir quelque chose comme quelques raideurs quelque part, en se disant que, parce que je ne veux pas en rajouter, mais ce que nous avons vécu comme difficultés sociales et tout ça, c'est rien comparé à ce qui nous attend. Soyons clairs.
Ah, il a dit, l'abondance, c'est fini. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Voilà. Maintenant, autrement dit,
vous en avez chié encore
il
plus.
Il va falloir se serrer la ceinture. Et le problème, c'est que d'abord, on n'a pas le même tour de taille, les uns et les autres. Et deux, il y en a qui ont plus des bretelles que des ceintures. Vous voyez ce genre de choses-là. Autrement dit, ça va être quelque chose de l'ordre d'un rapport de force, hein, qui va être parce que c'est la négociation là-dessus. Moi, je pense qu'elle est quand Jean-Luc vous dites mais j'aimerais bien le penser. Il y a les gens qui vont être raisonnables de ce point de vue-là. Ils vont être raisonnables parce qu'ils sentent bien que l'intérêt général va transcender éventuellement les intérêts qui sont les intérêts particuliers. Je crains, hélas, que non. Les gens qui font des super profits sont des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Il n'est pas le nôtre. Alors, je ne veux pas faire le boute-feu de ce point de vue-là, mais il me semble que si on veut réfléchir un peu froidement, sans faire de morale pour le coup, hein, il faut quand même partir de ce constat-là, hein, qui est de dire, faible avec les forts, fort avec les faibles. On a un gouvernement de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il ne veut pas taxer les super profits, il va pas hésiter à taper sur les salariés pour arriver à leur sucrer éventuellement les indemnités de chômage, en faisant reporter sur eux le fait effectivement que tout à l'heure on l'a évoqué tout à l'heure. Bon, et bien en gros les gens ne se battent pas pour aller travailler. C'est la mauvaise volonté des travailleurs. C'est une idéologie, ça, qui est une idéologie. Alors pire que tout de mon point de vue, hein, qui a été intégrée par les gens qui font des super profits, mais ça on connaît la sociologie nous l'ancienne, y compris par les gens qui éventuellement en sont les victimes.
Florence,
et qui vote pour les premiers, d'ailleurs.
Le mot de la fin.
Bon, on ne va pas se lancer forcément aujourd'hui dans la critique du capitalisme. Il y aurait beaucoup à dire en pour et en contre. Bon, je pense que le super-profit, ça concerne certains types d'entreprises qui, effectivement, souvent n'ont pas forcément toujours leur siège en France. Donc, il y a deux problèmes. Il y a le problème d'arriver, et ça, je crois que certains y travaillent, mais c'est très compliqué au niveau européen, d'arriver à faire un impôt de ce point de vue-là européen, sauf que, pour arriver à ça, on sait que sur les matières fiscales, il faut l'unanimité. Je précise au passage qu'à l'époque, quand on discutait sur la Constitution européenne, un certain nombre de pays avaient demandé à ce que ce soit une majorité qualifiée. Et c'est la France qui s'était opposée en demandant l'unanimité. Donc finalement, c'est le boomerang qui nous revient à la figure. Au passage, donc, il y a un problème européen. Bon, il y a effectivement des pays qui commencent à le mettre en place. Je crois, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Luc, je pense qu'il y a une espèce de consensus qui se dégage. Alors après, comment va-t-on faire ? Plutôt que de sortir encore peut-être une nouvelle taxe, peut-être faudrait-il tout simplement augmenter la taxe sur les sociétés, enfin les impôts sur les sociétés. Peut-être que Jacques sait comment cela fonctionne, plutôt que de créer à nouveau une nouvelle taxe, encore un truc très compliqué. Donc je pense qu'il y a moyen de le...
Enfin, on pourrait
je pense
imaginer,
qu'il y a une volonté politique, je pense qu'on peut y arriver,
on
honnêtement.
On pourrait imaginer un impôt, effectivement, sur les sociétés progressives.
Hein, voilà, on augmente
tout simplement
sur,
par tranche.
Voilà, exactement.
Après,
sans créer un nouvel impôt.
Après,
avec encore,
sachant quand même qu'on touche, on l'a dit, de très grosses entreprises, que ces très grosses entreprises ont les moyens de se payer des cabinets d'avocats extrêmement performants, on en connaît.
C'est le plaisir.
Voilà, et donc ces entreprises, par définition, travaillent sur plusieurs pays. Donc il y a la problématique de ce qu'on appelle les prix de transfert. Donc c'est quelque chose qui intellectuellement paraît relativement évident de dire, vous avez largement profité d'un moment difficile pour tous. remettez au pot, mais entre le dire et le faire dans des conditions juridiques claires, déjà il faut trouver un texte, il faut qu'il soit voté, puis après il faut le faire appliquer, et puis il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau des contribuables, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise qui travaille sur plusieurs pays a parfaitement la possibilité de jouer sur son assiette et de la modifier. Donc c'est, tout ça est extrêmement complexe.
Les Allemands y arrivent, ou les Espagnols, on faudrait peut-être regarder.
Ah oui, de toute façon, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais il faut se lancer dedans. Le problème, il faut s'y lancer, c'est très clair. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets que j'aurais aimé aborder, mais le temps est impitoyable. Je vais parler de l'état de la santé, parler de la crise énergétique, on peut parler de la réforme de l'assurance chômage, on peut parler du projet de budget et d'une espèce de 49-3 qui plane au-dessus, là, comme l'épée de Damoclès. On peut parler de M. Cazeneuve qui sort de son silence, qui lance un manifeste pour une autre gauche. On peut aussi parler de la réforme du Quai d'Orsay et celle de la PJ, deux sujets judiciaires, hein, comprenez, deux sujets qui ne sont pas neutres du tout, mais vraiment pas. Mais bon, le temps passe, il est impitoyable, et puis il va y avoir plein d'autres. Ça va mieux durant cette saison radiophonique, donc on va revenir sur tout ça. Voilà, mais regardons un peu ce qui se passe à l'extérieur. Allons faire un petit tour du côté du Chili, par exemple. Vous savez qu'il y a un président de gauche qui a été élu, fort bien élu d'ailleurs, et il y avait depuis un an une assemblée constituante qui travaillait pour réformer une constitution qui n'a pas changé depuis M. Pinochet, qui l'avait mise au point. Donc c'est dire qu'elle n'était pas exagérément progressiste, féminisme. Eh bien, Pinochet bouge encore, hein, il bouge même fortement, puisque 62% des Chiliens ont décidé de rejeter le projet de nouvelle constitution qui leur était soumis. Alors c'est un projet où il y avait des avancées très importantes pour le droit des peuples autochtones, le droit des femmes, les droits environnementaux, c'était vraiment les trois piliers de cette nouvelle constitution. Eh bien, elle a été rejetée dans des très, je vous l'ai dit, hein, sèchement, une très large majorité. On parlait de l'IGV, on parlait de beaucoup de choses. Et pourtant, les Chiliens s'étaient massivement prononcés lors d'un référendum en octobre 2020 en faveur de la rédaction déjà de nouveaux textes. Alors, on est certainement d'accord pour avoir un nouveau texte, mais le Chili est un pays compliqué, hein, vous le savez. C'est un pays immense, enfin au moins de haut en bas, si je puis dire, hein, puisqu'il y a des Chiliens qui vivent dans le nord et dans le sud du pays. Dans le nord, on doit faire face à d'importants flux migratoires. Et au sud, on a de violents conflits sur les questions de la propriété des terres avec les revendications des peuples autochtones, dont tout cela est très compliqué. Mais pour autant, ça fait le miel de certains, notamment M. José Antonio Cast, j'espère que je le prononce bien, qui est le leader de l'extrême droite et qui, bien sûr, n'a pas manqué de se réjouir très bruyamment. Mais je pense qu'on va, et le président a fort intelligemment dit, nous allons remettre tout ça sur le métier et on va continuer à travailler. Sur cette question, Jean-François ?
Oui, je vais bien y aller. Cette 60%, 30%, en gros, voilà, je le fais à la louche, les résultats du référendum. Tous les gens qui suivaient d'un peu près ça, j'en fais partie, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je suis attentif à ce qui se passe. Au Chili, qui est quand même, on l'a dit plusieurs fois, ici, ça va mieux, est un pays un peu emblématique pour quelques-uns d'entre nous. Hein. Le Chili, c'est pas rien. C'est toujours un peu une plaie, le fait d'imaginer que Pinochet soit mort en un seul lit, ce qui montre qu'il vaut mieux s'appeler Pinochet que Assange. Hein. Il vaut mieux être un vieux dictateur fasciste qu'un lanceur d'alerte.
Plus près de chez nous, il y en a un autre de l'autre côté des Pyrénées qui est mort dans son lit.
Voilà, tranquillement.
Il a agonisé longtemps, mais il a fini par partir.
Oui, bien sûr. Ce qui est impressionnant, c'est la sécheresse du résultat. Hein. On savait que c'était pas. Avec un taux de participation important. Alors, ce qui est un indicateur du fait qu'en gros, me semble-t-il, cette proposition a eu comme effet qui était cette proposition de modification constitutionnelle extrêmement complexe. Hein. Fallait voir, c'était un gros bouquin, hein, le projet de réforme touchait justement à énormément d'aspects de la vie quotidienne jusqu'aux grandes questions institutionnelles, et que ça a largement compilé des oppositions qui sont des oppositions partielles. Hein, c'est-à-dire que ça touchait tellement à tout que ça dérangeait énormément de gens sur des tas de choses. Ça a été évoqué. Le Chili est un pays compliqué. Hein, ce n'est pas un pays qui est un pays très, très homogène. Voilà. Donc, il n'y a pas eu certainement une pédagogie du changement politique qui fasse que les gens qui étaient... c'est allé très vite, pour le dire trivialement, c'est allé très vite, très tôt, et c'est certainement pas forcément assez porté par rapport à l'ampleur de ce que ça pouvait représenter. Ça pointe quelque chose, me semble-t-il, au-delà de ça. Alors on pourrait continuer à rentrer dans le détail sur les... Et que l'extrême droite, la droite extrême et l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, encore une fois, le Chili est un pays intéressant par rapport à la proximité qu'il peut avoir avec nous. Hein. C'est un des pays, certainement, d'Amérique latine qui a des cousinages politiques qui sont assez étonnants. L'extrême droite, dans la plus pure démagogie, et ça nous rappelle quelque chose, a attrapé tout ce qui était attrapable. Hein, pour effectivement aller à l'encontre, à faire de la démagogie, bon, impossible. Ce que ça pointe, me semble-t-il, et là aussi, en 73, on était quelques-uns à réfléchir à ce genre de choses-là, c'est qu'un changement politique de fond ne passe pas par des procédures qui sont des procédures constitutionnelles ou des procédures qui sont des procédures politiques. Là, il y avait quelque chose d'un basculement de la société. Ça a fonctionné dans un sens. C'est passé par la violence. La difficulté aujourd'hui, c'est comment peut-on déconstruire ce qui a été fait sans passer par la violence, parce que quand on passe par les procédures qui sont les procédures habituelles, effectivement, on rencontre des difficultés. C'est vraiment une question qui, je pense, nous concerne.
Jean-Luc, un mot sur cette question ?
Oui, j'ai beaucoup de similitudes dans mon propos à venir par rapport à ce que vient de dire Jean-François. Tout d'abord, l'histoire du peuple chilien, comme ce pays en lui-même, nous tient à cœur. C'est un pays qui a une histoire fracturée, mais finalement qui a une histoire qui donne de l'espoir. Mais aujourd'hui, si on revient sur ce véritable résultat de ce référendum, on peut voir effectivement le côté du verre à moitié plein ou à moitié vide. On pourrait dire aussi qu'il y a 30% des Chiliens qui étaient prêts à s'inscrire dans cette nouvelle constitution. Et donc, je pense que c'est, il faut y voir là, et ça a été forcément très bien dit, quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Et s'il y avait une seule chance que ça puisse un jour accoucher d'une constitution nouvelle, par la voie des urnes, par la voie du principe institutionnel, eh bien, je crois que le peuple chilien donnerait une belle leçon à l'ensemble des démocraties, y compris européennes. Imaginons aujourd'hui qu'en France, on veuille changer la constitution. On veut passer à la 6e République. Mais moi, je peux vous dire qu'on vivrait les mêmes choses. Finalement, il y a très peu de chances que, comme ça, on puisse passer à la 6e République par la voie des urnes avec, je dirais, autant de facilité qu'on le souhaitait pour les Chiliens. Il n'y aurait pas beaucoup plus. Et donc, je crois qu'il faut voir les choses plutôt positivement. Il y a un président courageux, une gauche courageuse qui a mis dans son projet politique de faire évoluer cette constitution. Et je crois que c'est en bonne voie. Ils ont la volonté de continuer, de progresser dans la compréhension de ce qui peut être imaginé. Et laissons faire, en espérant que justement il n'y ait pas une contre-révolution violente, et qui pas en est, pour le coup, c'est plus différent au Chili qu'en France, puisque ça fait partie effectivement, malheureusement, de leur histoire.
Le président s'appelle Gabriel Boric, on ne l'a pas encore cité, c'est fait. Florence, un dernier mot pour conclure étudiant. Sur le sujet.
Deux mots, moi je pense que le processus qui avait été mis en place était extrêmement démocratique, puisqu'il y a eu un vote pour désigner une assemblée constituante, il y a eu un référendum où les gens étaient d'accord sur le principe. Après, ce qui semble avoir posé problème, c'est la manière dont ça a été géré au niveau de l'assemblée constituante. Il est probable qu'il y a une partie... peut-être à gauche, peut-être un peu peut-être radical, qui a voulu en faire trop et qui n'a pas assez discuté avec le centre droit, qui était d'accord pour l'ensemble sur un certain nombre de mesures. Donc il se peut que c'est ça qui est entraîné le rejet par la population. Ensuite, c'est un texte extrêmement long. Une constitution n'est pas un texte de loi. Donc je pense qu'ils ont pêché aussi, c'est un peu le problème de la constitution européenne d'ailleurs, des textes énormes où finalement on peut très bien s'opposer très facilement. Et dernier point, il est probable aussi que le référendum, c'est quand même un instrument à manier avec précaution. Il y a peu de peuples qui sont habitués au référendum démocratique, c'est la Suisse, et c'est vraiment un travail pédagogique. Donc il se peut aussi que ce soit un petit peu leur problème. Mais je suis optimiste aussi.
Mais ils vont rarement à la question posée dans un référendum. Oui.
Non, pas en Suisse. La Suisse, ce sont des gens qui ont une habitude. Oui, mais il ne faut pas rire. On se moque beaucoup des Suisses, mais c'est un pays éminemment démocratique. Oui. Et ce sont des gens qui ont depuis... Donc je veux dire, la démocratie, ça s'apprend. C'est un long processus. Et même le référendum, c'est quelque chose qu'il faut... on ne l'utilise pas n'importe comment. Donc il est probable que là, quand le référendum est intervenu, le président était peut-être déjà un petit peu critiqué. Et peut-être ça a joué pour le
rejet. Il n'est pas élu depuis bien longtemps. Mais voilà. On continuera à surveiller cette question. Alors l'heure a largement et même très largement sonné de nos dernières rubriques. Donc je vais ouvrir celle des brèves en vous parlant... de la SNCF française, on sait qu'elle marche fabuleusement bien. Comme l'a dit son président qui s'appelle Fanichet, c'est le patron de la SNCF Voyageurs. Le TGV, je le cite, a vocation à être populaire. On le voudrait, hein. Aller-retour Paris-Toulouse, et je cite là le canard enchaîné, un aller-retour Paris-Toulouse le 22 et 29 octobre pour une famille de 4 coûte 700 euros en train, 280 euros en avion. Ah bon, quand on aligne ça, quand même, on se gratte un peu la tête. Alors, le nouveau ministre des Transports a demandé à la SNCF de faire un effort sur les prix. Et la réponse du monsieur Fanichet, c'est « Mon concurrent n'est pas l'avion, mais la voiture. Imaginez le même budget Paris-Toulouse en voiture. Le train est une réponse au pouvoir d'achat des Français. Il doit être davantage là pour ceux qui ont du mal à payer le plein d'essence. Le problème, c'est que les calculs ont été faits et un aller-retour entre notre bonne ville et la capitale en auto... qui roule au diesel, péage compris, c'est 250 euros. Donc on est quand même loin du compte. Et quand on sait que certains se battent depuis des années sur un projet, à mon avis aujourd'hui obsolète, on a fait l'émission ici là-dessus, pour avoir à grand renfort de milliards un train qui aille à Paris, Toulouse-Paris, pour gagner uniquement une heure, on peut se poser des questions. Jean-François, une brève.
Oui, je vous annonce, peut-être avec surprise, que... progressivement, à petits pas, la peine de mort vient d'être réinstaurée en France. C'est pas les tribunaux, c'est la police nationale qui administre ce genre de choses-là. Nous en sommes à la 9e personne qui a été tuée par la police à l'occasion d'un contrôle routier. Je ne rentre pas dans le détail de la forme des contrôles routiers. Je rappelle juste que les décisions de justice sont données par la justice et que la peine de mort, théoriquement, est abolie dans notre pays.
Sachant qu'on doit pouvoir faire autrement, parce que quand on regarde les statistiques, et notamment celles de la gendarmerie nationale, qui, elle aussi, se sert parfois de ses armes, eh bien la gendarmerie tue très, très peu de personnes, là où la police n'en manque curieusement aucune.
La police en a tué 2 il y a 1 an, 1 il y a 2 ans et 0 il y a 3 ans.
Voilà, donc il doit y avoir des moyens certainement de faire autrement, mais le débat nous entraînerait trop loin. Jean-Luc, une brève.
La journée mondiale du nettoyage de notre planète, c'est bien d'en parler, on n'a pas trop parlé.
Ah oui, ça se nettoie, oui.
Aujourd'hui. Donc je rappelle, ça se déroulera dans le monde entier le 17 septembre. Tous les citoyens, entreprises, écoles et collectivités sont invités à ramasser le maximum de déchets.
Il y a des travaux, Florence.
Oui, moi je voudrais parler d'une déclaration de la ministre des Affaires étrangères allemande, qui est une verte, qui s'appelle... Annalena Baerbock, et qui vient de remettre en cause la doctrine diplomatique habituelle de l'Allemagne, qui s'appelait le changement par le commerce, c'est-à-dire cette idée de penser que... je vois Jean-François qui s'agit.
Oui.
Non, mais c'est très intéressant. Bien sûr. C'est une verte. D'ailleurs, au passage, vous constaterez que les Verts allemands, ça fait deux fois qu'il y a des ministres des Affaires étrangères verts, ce qui ne s'est jamais produit en France et qui, à ce stade, risque fort de ne pas se produire. Donc, c'est une remise en cause de ce pilier de la diplomatie allemande, donc bien sûr lié à l'Ukraine et à la prise de conscience aussi du danger que représente la Chine. Donc, c'est très important. Peut-être aussi pour l'évolution de l'Union européenne.
Tout à fait d'accord. La naïveté allemande commence à s'effriter. Alors, ça va mieux. Ben, écoutez, même s'il est tardif, même s'il a des faiblesses, même si son auteur s'est certainement quelque peu censuré, on va saluer le rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, portant sur les graves et inacceptables persécutions subies par les Ouïghours et bien sûr commises par le pouvoir chinois, lequel n'en est pas à son coup d'essai. On peut rappeler le Tibet, Hong Kong, d'ailleurs 5 auteurs de livres pour enfants viennent d'être condamnés pour sédition, comprennent qui pourra. Il y a quelques autres aussi régions du Tibet ou catégories de population, pas du Tibet mais de Chine, qui subissent d'autres désexactions dont je pense que les Taïwanais, c'est difficile à dire, doivent un peu serrer les fesses. Jean-François ?
Ça va mieux, il aura fallu 6 fois, mais ça y est, on va arriver, mais pas encore, à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Ça a été long, mais à l'unanimité, moins une voix, j'ai eu la pudeur de ne pas aller regarder qui c'est qui avait voté contre ou qui s'était abstenu par rapport à ça. Ça va mieux, mais qu'est-ce que c'est long pour que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des principes qui sont des principes de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Projet qui a été initié et porté par Aurélien Pradier, que l'on a eu dans ce studio, qui est député du Lot et qui appartient aux Républicains, qu'il avait déjà essayé de le faire passer dans la mandature précédente et qu'ils s'étaient cassés les dents, et puis finalement on y est arrivé. Donc,
ils avaient été plusieurs.
Oui. On peut se demander vraiment pourquoi les noms seraient intéressants à connaître et leur motivation. Florence, ça va mieux ?
Alors là aussi, ça va mieux et ça a été très long. C'est la promulgation enfin de la loi bioéthique sur la PMA ouverte aux femmes, aux couples de femmes et aux femmes seules, puisqu'on sait la difficulté pour les femmes françaises qui sont obligées d'aller en Espagne, notamment pour faire des dons d'ovocytes. Et également, un élément important, alors qui peut être peut-être un peu critiqué, mais enfin, on y est arrivé, c'est-à-dire la possibilité pour les enfants nés de PMA, etc., d'avoir accès à l'identité des donneurs, ce qui veut dire que les donneurs devront maintenant donner leur consentement pour pouvoir faire un don, ce qui peut poser des problèmes. En tout cas, voilà ce qu'il y a dans la nouvelle loi qui vient d'être promulguée, là, qui est entrée en vigueur le 1er septembre.
Jean-Luc, est-ce qu'il va mieux ?
Ça va mieux en Occitanie.
Ah.
Plus 6% d'offres d'emploi en un an en Occitanie, après une forte baisse liée à la crise sanitaire. Puis un rebond exceptionnel, et aujourd'hui, les offres d'emploi en Occitanie retrouvent leur niveau de 2019.
Parfait, dernière rubrique, un conseil culturel. Alors moi, je vais vous donner 2 conseils de lecture. Bon, le premier, on en a beaucoup parlé, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est Les versets sataniques de M. Salman Rushdie, chez Folio, c'est pas très cher. Hein. C'est quand même intéressant de savoir pourquoi l'on a déjà tué quelques dizaines de personnes et attenté à la vie de l'auteur d'un roman. Donc Rushdie, dans ce livre, nous embarque dans une épopée tout à fait truculente, un voyage de larmes, un voyage de rire, au pays du bien et du mal, si inséparablement liés dans le cœur des hommes. Alors lisez-le, hein, vous verrez, vous jugerez par vous-même. Vous verrez qu'il n'y a pas de quoi fouetter un imam. Et puis, un autre livre, François Ruffin, Je vous écris de la Somme, ça vient de sortir. C'est au Lien qui libère, très belle maison d'édition. Et vous verrez, l'auteur s'interroge sur ce qui a poussé certains électeurs de gauche à voter pour le RN et qui propose des solutions pour les ramener au bercail. Ça se lit très vite, c'est très factuel, c'est un homme de terrain, François Ruffin. Il écrit bien, c'est nerveux, c'est un constat sans concession et un socle de réflexion des plus intéressants. Voilà, Salman Rushdie, François Ruffin, un grand écart, mais les deux sont très très riches pour notre réflexion. Jean-François ?
Oui, faire de l'étranger un hôte, hein, l'hospitalité un droit fondamental. C'est un livre, le titre est assez explicite, c'est écrit par Marie-Laure Morin, c'est une Toulousaine, c'est une ancienne magistrate et une ancienne universitaire. C'est un livre un peu compliqué à lire, parce que c'est un peu juridique, mais c'est extrêmement intéressant, de voir comment on peut penser la question qui est la question du rapport aux migrations et aux droits fondamentaux des personnes qui les subissent et qui les vivent, dans un contexte dans lequel, effectivement, il y aurait pas mal de questions à se poser. C'est aux éditions Sileps, « Faire de l'étranger un hôte » de Marie-Laure Morin.
Et si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit au micro, Jean-François, nous la recevons tous les deux.
On va essayer de l'inviter.
Voilà, nous allons l'inviter pour aller plus loin sur cette question absolument fondamentale. Jean-Luc, un conseil.
Oui, en fait, je suis tombé sur le livre « Le sursaut ». L'histoire intime de la Ve République, écrit donc pour ce premier volume par François-Olivier Gisberg. Et en fait, ça m'a complètement renvoyé à nos sujets de ces débuts d'émission. C'est qu'est-ce qui sera possible pour notre pays en termes de sursaut face aux enjeux colossaux qui vont nous être présentés. Et je crois que, en prenant justement référence par rapport à ce qui s'est passé après, à l'après-guerre, eh bien, on pourrait avoir des moyens de bien réfléchir sur ce qui pourrait être fait.
Terminé.
Et oui, Florence qui termine, on termine toujours par la meilleure, hein, meilleure pour
toujours,
la fin.
Toujours. Le meilleur au début, la meilleure à la fin.
C'est tout à fait aimable. Donc moi, c'est un conseil d'une émission de radio que peut-être vous connaissez sur France Culture, qui sur la philosophie, qui a été reprise par Géraldine Mühlmann, que je connais, qui est très, très intéressante.
Donc qui a remplacé Adèle Vendrette, c'est
voilà,
ça
je, qui est vraiment très bien. Géraldine Mühlmann, elle est agrégée de philo et agrégée de sciences politiques. Alors au départ, l'idée c'était de recevoir une seule personne. Elle va faire des débats avec deux personnes sur des questions de société politique. Et je vous le recommande parce que les derniers sujets, c'était sur le pouvoir et c'était extrêmement intéressant.
Eh bien, nous irons l'écouter. Et puis, avant d'en terminer, ben, une annonce. Serge Planchou, qui est cinéaste, s'est beaucoup intéressé à Maurice Andrieux. Il a fait un film, 67 minutes, hein, je vous donne le temps, Une certaine histoire de l'Occitanie. Vous pourrez le voir à deux ou trois reprises en Toulouse. C'est la première fois où vous pourrez voir ce film. C'est dimanche 18 septembre à 10h45 à l'ABC Toulouse. Jean-François, une précision ?
Non, c'était juste pour rajouter quelque chose, terminer, Jacques.
Oui.
C'est pour annoncer le fait que du 19 septembre au 26 septembre, vous avez le festival Origine Contrôlée qui a lieu à Toulouse, dans les quartiers nord de Toulouse. N'hésitez pas à venir voir, c'est toujours passionnant. C'est en septembre.
C'est en septembre. Bien. Merci, merci Florence, merci Jean-Luc, merci Jean-François. Comme à l'accoutumée, vous avez été excellent.
Vous en êtes un autre.
C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne. Avec à la réalisation, manette Chéliane Amada. C'était la première fois, elle arrive dans l'équipe. Et on l'accueille bien volontiers avec grand plaisir.
Merci,
on...
merci. Bravo, merci.
Voilà, et puis on remercie aussi Tiffaine Lemaine qui avait un œil vigilant sur son travail.
Merci aussi Tiffaine.
Tiffaine qui est restée parmi nous, on en est tous très heureux. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Et belle journée, belle soirée à toutes et à tous.